Le contexte, l'Arabie avant Mohammed. Bien que les Arabes ne représentent aujourd'hui que 20% de la population musulmane, l'islam est étroitement lié à leur culture et à leur histoire. La caractéristique la plus importante qui lie tous les Arabes est une langue commune, l'arabe. L'arabe est une langue sémitique, ce qui signifie qu'elle appartient à la même famille de langues que l'hébreu. L'Arabie est la patrie originelle des Arabes. Bien avant la naissance de Mohammed, les Arabes avaient déjà débordé le cadre de l'Arabie et s'étaient installés en Irak, en Palestine et en Syrie. En un siècle, après la mort de Mohammed, grâce à leur conquête, les Arabes devenus musulmans ont étendu leur domination sur d'autres territoires, notamment au Maghreb. L'Arabie saoudite aujourd'hui recoupe en grande partie l'Arabie au temps du prophète. Cette grande péninsule s'étend le long de la mer Rouge qui la sépare de l'Égypte. Elle est bordée au nord par la Syrie, la Palestine et la Jordanie, et même la partie sud-ouest de l'Iran moderne, et occupe toute la partie que l'on appelle le golfe arabo-persique. L'Arabie fait partie de la zone géographique appelée aujourd'hui le Moyen-Orient. Selon les époques et le contexte, la zone qui va de l'Égypte à l'Iran et englobe l'Arabie est appelée également le Proche-Orient ou le Levant antique. La vie en Arabie était dure. Une grande partie de la péninsule était constituée de déserts et la population y était très clairsemée. Avant la découverte du pétrole au XXe siècle, l'Arabie manquait de ressources naturelles. Avant l'émergence de l'islam, l'Arabie n'avait jamais été unifiée en une seule entité. En revanche, le pays voisin, le Yémen, était déjà un État centralisé, doté d'une civilisation développée et très élaborée. L'histoire du Yémen unifié remonte à environ 1000 ans avant notre ère. Les grands empires à l'époque de Mohammed, dans cette partie du monde, étaient soit l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, avec pour capitale Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie, soit l'Empire perse, également appelé l'Empire sassanide, qui ont régné sur l'Iran et une grande partie de l'Irak. Ces deux grands empires finirent par se faire la guerre. Chacun a exercé une certaine influence, directement ou indirectement, en Arabie, mais ni l'un ni l'autre n'ont essayé de conquérir ni de diriger directement la péninsule entière. Une des deux villes qui ont joué un rôle essentiel dans la vie de Mohammed est la Mecque, qui est située un peu à l'intérieur des terres, non loin des bords de la mer Rouge en Arabie, dans une région qui s'appelle toujours le Hedjaz. Les origines de la Mecque remontent environ à l'an 400, à une époque où la ville était l'un des lieux saints les plus importants de l'Arabie, parce qu'elle abritait le sanctuaire déjà sacré de la Kaaba, qui était un lieu de pèlerinage. Écoutez le chapitre 9. Si l'on se réfère à ce que disent les musulmans, la Mecque était une ville prospère à l'époque de Mohammed. Son économie était fondée sur le commerce, étant placée sur des itinéraires commerciaux qui reliaient le Yémen et Damas en Syrie. Chaque année, deux caravanes marchandes en partaient, l'une descendant vers le sud, l'autre remontant vers le nord. Comme ce fut le cas dans le désert du Sahara africain, c'est le chameau, sobre et capable de faire de longs trajets et de transporter des charges énormes, qui permit ces échanges commerciaux à travers l'Arabie. Avec une foire commerciale, des traités et une trêve pendant les mois de la foire et du pèlerinage, le commerce a pu prospérer. Un certain nombre de chercheurs pensent que cette image d'une ville commerciale animée et occupant une place centrale dans les échanges internationaux de l'époque est quelque peu dépassée aujourd'hui. Dans un livre intitulé « Mohammed et les origines de l'islam », paru à New York en 1994, F. E. Peters, son auteur, fait remarquer que nous n'avons aucune preuve archéologique pour étayer cette représentation de la Mecque. Contrairement à d'autres sites anciens d'Arabie, où l'on a retrouvé des vestiges archéologiques importants qui attestent de l'existence de centres commerciaux arabes. Il dit que les archives datant des premiers temps de l'islam, mais non musulmanes, ne font jamais état de la Mecque comme d'une ville marchande importante. Peters pense que la Mecque était un village très modeste, avec bien peu de grands bâtiments, et que son commerce était essentiellement local, limité à la péninsule arabique. Médine, pour sa part, était, pour l'Arabie, une communauté agricole prospère, avec des champs fertiles et un approvisionnement en eau régulier, toute chose qui manquait cruellement à la Mecque. Située à environ 400 km au nord de la Mecque, sur un axe qui mène en Palestine et en Syrie, son nom original était Yathrib. Plus tard, son nom s'est transformé en Médine, c'est-à-dire « ville » en arabe. C'est un diminutif de Madinat an-Nabi, ce qui signifie la ville du prophète. Les habitants cultivaient principalement des dattes. Le site était composé d'un certain nombre d'habitations de type rural et doté de quelques structures fortifiées qui servaient de refuge en temps de guerre. Un certain nombre de clans juifs ont joué un rôle important dans cette population, qui était dominée à l'époque de Mohammed par deux tribus arabes. En dehors des villes de commerce et des villages agricoles, la population comptait également des bergers nomades, les Bédouins, sans domicile fixe ou permanent. Le mot « arabe » s'appliquait à l'origine uniquement aux Bédouins. Et même si parfois les Bédouins et les villageois s'opposaient, ils étaient dépendants les uns des autres. En règle générale, le Bédouin a pour valeur l'amour, l'honnêteté, la générosité, l'hospitalité et le courage dans la guerre et dans l'amour. Dans la ville commerçante de la Mecque, les valeurs bédouines traditionnelles s'effritaient, érodées par la recherche du profit individuel. Pour aller plus loin, le clan, composé d'un certain nombre de familles au sens large, était l'unité sociale centrale de la société arabe, sédentaire et nomade. Les membres d'un même clan se réclament d'un ancêtre commun en remontant plusieurs générations en arrière. Les aînés des familles dirigeantes choisissaient le chef du clan, le cheikh, dont le pouvoir reposait sur le consensus et la consultation. Au-dessus du clan étaient les fédérations de tribus, dont les affinités étaient fluctuantes. Les clans nomades faisaient des incursions, des razzias, les uns contre les autres ou contre les villages et les caravanes, dans le but non pas de tuer l'adversaire, mais de capturer des esclaves, des femmes, des chameaux, des chevaux et tout autre butin. Naturellement, la défense de son propre honneur et de l'honneur des femmes de son clan était importante. Dans l'islam, Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, a appelé Mohammed à être son prophète en 610. Cet appel marque le commencement de l'islam. La période de l'histoire antérieure à cet appel de Mohammed s'appelle en arabe Al-Jahiliya, les temps de l'ignorance. Les Arabes étaient en majorité polythéistes, croyant en plusieurs dieux. Le sanctuaire de la Kaaba, situé à la Mecque, écoutez le chapitre 9, contenait l'effigie de 360 dieux, dont le plus important s'appelait Hubal. Allah était un dieu éloigné, invité seulement en période de crise. Trois déesses étaient plus souvent sollicitées dans la vie quotidienne et habituellement considérées par les Arabes de l'époque préislamique comme les filles d'Allah. Al-Lat, Manat et Al-Uzza, évoqués au chapitre 2 et 5. Des esprits mal définis habitaient les cavernes, les pierres, les ruisseaux et les arbres. Et les djinns, écoutez le chapitre 7, abondaient. les Arabes polythéistes n'avaient aucune espérance d'une vie après la mort. Elle était remplacée par la notion de destin, qui était plus importante que celle des dieux, et qui, en dernier lieu, menait toute chose à sa fin. Selon la tradition islamique, avant la période de Mohammed, quelques individus ont cherché une alternative religieuse au polythéisme et ont eu la vague intuition d'un dieu unique. Pour les musulmans, c'était là revenir au monothéisme originel d'Abraham, croyance en un seul dieu. La tradition islamique utilise le terme « hanif » pour parler de ces monothéistes. On dit que Mohammed, avant d'avoir reçu son appel, aurait été un hanif. Comme pour la Mecque, pour la poésie pré-islamique et la vie de Mohammed en général, les seules preuves étayant cette façon de voir proviennent du Coran et des traditions islamiques. Les autres religions pratiquées étaient le judaïsme et le christianisme. Quelques communautés juives étaient implantées à Médine, au Yémen et dans d'autres endroits dispersés. Il y avait des chrétiens qui, eux, étaient plutôt localisés sur la frange géographique. De l'autre côté de la mer Rouge, en Éthiopie, se trouvaient des chrétiens monophysites, alors que dans les régions frontalières du Nord, on trouvait plutôt des chrétiens nestoriens. Il ne fait pas de doute que les caravanes arabes ont croisé ces chrétiens sur leur route. Ni l'un ni l'autre de ces groupes chrétiens, cependant, ne reconnaissaient le dogme de la Trinité, Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le zoroastrisme était la religion officielle de l'État persan sassanide, qui sous plusieurs variantes s'était répandue en Iran et dans la partie qui est aujourd'hui l'est de l'Irak. Le zoroastrisme est une forme de dualisme moral dans laquelle un dieu incréé, bienfaisant, est en conflit permanent avec un dieu malfaisant. Un nombre restreint d'adeptes du zoroastrisme, connus sous le nom de Parsi, le nom donné à cette religion en Inde, survivent aujourd'hui dans un certain nombre de pays, notamment en Europe et aux États-Unis.